CFM Radio. La pop, le rock. CFM.
Madame, monsieur, bonsoir. Émission spéciale ce soir à la place de votre magazine C'est Dingue qui démarrera un peu plus tard. Nous laissons la place à une spéciale élection régionale avec Kader Youb. Bonsoir Kader.
Bonsoir Ami, bonsoir à tous. Aujourd'hui, Myriam Martin qui conduit la liste Occitanie populaire aux élections régionales de juin prochain. Bonjour Myriam Martin et bienvenue sur CFM Radio.
Bonjour à vous et merci pour votre accueil.
Vous aimez à rappeler souvent vos origines ariégeoises. Vous vous êtes très tôt intéressé à la politique au sein des JCR, tout d'abord les Jeunesses communistes révolutionnaires, puis à la Ligue communiste révolutionnaire. Vous avez été porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Vous aviez succédé à Olivier Besancenot. Et en 2012, vous vous rangez aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, que vous soutenez pour l'élection présidentielle. En 2015, vous entrez à la région, vous êtes élu conseiller régional sur la liste Notre Sud en commun, issu de la fusion entre les listes conduites par Gérard Onesta et celle de Carole Delga. On va y revenir. Vous êtes aujourd'hui, Myriam Martin, à la tête d'une liste Occitanie donc populaire, soutenue par la France insoumise, le nouveau parti anticapitaliste et la gauche démocratique et sociale. Une question tout d'abord personnelle, si vous le permettez, pourquoi ? Et comment vous êtes-vous engagé en politique ?
Ouais, je suis un petit peu tombée dedans comme Obélix dans la potion magique quand j'étais petite. Je suis d'une famille militante, ouvrière, communiste, cégétiste, et aussi avec un grand-père notamment engagé dans la résistance. Donc je suis un petit peu venue naturellement à la politique. Le refus des injustices, voilà, j'ai la révolte chevillée au corps depuis que je suis petite, c'est comme ça. Voilà. Donc je suis venue à la politique par l'antiracisme. Par la lutte pour l'égalité. C'est un peu comme ça que l'ICEN, je me suis structurée. Et puis après, j'ai rencontré des organisations politiques à la fac. Et mon premier combat, ce fut contre la loi de Vaquet, qui a instauré une université à plusieurs vitesses, ce qui existe malheureusement déjà aujourd'hui. Mais en 86, quand je me battais, c'était quelque chose qui révoltait la plupart de nos jeunes, de la jeunesse. Et donc, mon premier combat a été celui-là, et puis je n'ai plus jamais cessé de me battre et de combattre. Voilà.
Combattre, combattre et toujours combattre. Est-ce qu'on n'est pas fatigué, finalement, de toujours combattre ?
Écoutez, si on ne se bat pas, dans une société qui est une société quand même très injuste et qui dont nos concitoyens méritent qu'on se batte pour eux, voilà. Même parfois si c'est difficile, l'envie de changer les choses, d'avoir une société plus juste, une société fraternelle, une société solidaire, une société qui sache aussi tenir compte de la réalité, de la finitude de nos ressources, par exemple, ces combats-là, pour moi, ils sont super importants. Alors, je me bats toujours, parce qu'il y a une majorité de la population qui mérite mieux que ce qu'elle a. Et je pense que ces combats-là sont justes. Donc voilà, ça fait partie encore une fois de mon ADN et je dirais presque que je ne sais pas faire autre chose. Voilà.
Vous n'êtes jamais de lassitude ?
On peut éprouver parfois de la fatigue, c'est sûr, mais il y a toujours un plaisir à se battre parce qu'on ne le fait pas seul. Voilà, moi, je rencontre dans mon quotidien, sur mon lieu de travail, avec mes camarades, dans le militantisme, du soutien, de la solidarité et des hommes et des femmes qui sont comme moi, qui pensent que ça vaut le coup de changer les choses. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les bras et on laisse faire l'injustice, l'accaparement d'une minorité par une minorité de toutes les richesses. On voit toujours autant de pauvreté, d'inégalité, de précarité. Moi, je suis révoltée. Voilà. Et cette révolte-là, c'est aussi une façon d'insuffler du sens à ma vie. La révolte, c'est aussi motivant, même si c'est évidemment un combat qui est un combat de longue haleine, ça c'est clair.
Il y a une autre révolte qui s'est traduite aujourd'hui dans les rues de Paris. Je voudrais vous citer quelques lignes. Je voudrais vous parler de notre pays et du travail remarquable que vous accomplissez pour lui. Vous participez ce jour, soit par votre présence, soit par votre approbation à la marche citoyenne organisée à Paris à l'initiative de vos organisations syndicales. Elles ont appelé à un large rassemblement de toutes celles et tous ceux qui veulent marquer leur attachement et leur soutien à la police républicaine. Ça, c'est signé Carole Delga dans une lettre, un extrait d'une lettre adressée à un policier qu'elle écrit en écho à la marche donc d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes des leurs aussi, Myriam Martin ?
Bon, moi, écoutez, j'ai lu cette lettre de Carole Delga et sa déclaration d'amour aux policiers. Je pense que dans cette attitude, il y a une bonne part de calcul électoraliste, je le dis tout net. On a une manifestation appelée par des syndicats de policiers sur des revendications propres à cette corporation, ce que je peux tout à fait entendre. Après, pour ce qui est du reste, et des soutiens qui ont été annoncés des uns et des autres ces derniers jours, il y a une logique d'une part de récupération, et je trouve très très dangereux qu'on s'inscrive dans une journée qui est au fond récupérée par l'extrême droite.
Mais il y avait tous les partis, Martin, tous les partis.
Non, il n'y avait pas Europe Écologie Les Verts, il n'y avait pas la France Insoumise. Non, Jadot était présent, mais Europe Écologie Les Verts a communiqué hier, n'a pas participé à la manifestation. Génération non plus. Et puis je peux vous dire qu'un autre parti de gauche, pour avoir rencontré aujourd'hui des militants, ça n'était pas forcément la grande satisfaction de voir un certain nombre de leurs dirigeants dans cette manifestation. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une confusion. Il y a une manifestation qui est une manifestation légitime de policiers qui revendiquent un certain nombre de droits ou de propositions qu'ils font relatives à leur travail, j'entends bien. Mais il y a aussi une tentative de récupération et on surfe sur aussi une dérive sécuritaire qui aujourd'hui ne répond pas concrètement à quelle la police nous voulons, quelle justice nous voulons et quels sont véritablement les problèmes dans cette société. Il ne s'agissait pas du tout, de rendre hommage à un policier, mais bien, en tout cas pour les politiques qui étaient là, mais bien de profiter de l'effet domaine pour faire de la surenchère. Parce qu'un policier qui meurt, c'est un drame. Voilà. Un fonctionnaire, je suis fonctionnaire, qui meurt dans l'exercice de son travail, c'est un drame. Pour moi, ça restera un drame. Mais profiter de la situation bassement pour un calcul électoraliste, je trouve ça déplorable.
On dit souvent, Myriam Martin, vos adversaires, en tout cas, que la gauche, en général, a un problème avec la sécurité. Cette thématique ne faisant pas partie de leur corpus idéologique, est-ce que c'est toujours le cas, selon vous ?
Il y a toujours, de toute façon, des débats qui sont réduits à leur simple expression qui ne vont pas, parce que le sujet n'est pas celui-là. La sécurité est un thème, il n'y a pas de souci. Mais la sécurité, il faut voir ce qu'on y met derrière. Il y a la sécurité aussi qui est sociale. Et d'ailleurs, les problèmes parfois de violence et d'insécurité viennent aussi de cette insécurité sociale et cette violence sociale qui aujourd'hui affecte énormément de gens. C'est aussi à cela qu'il faut répondre. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, mais je nie le fait aujourd'hui que ce qui est raconté soit par un certain nombre de syndicats policiers, soit, pour ne citer que par certains militaires qui ont sorti certaines tribunes il y a quelque temps, il y a une exagération du phénomène qui ne sert, encore une fois, qu'un discours sécuritaire et répressif et qui ne sert que l'extrême droite. Et je crois qu'il faut faire très attention à cela. Il ne faut pas tout confondre, effectivement.
On va y revenir sur l'extrême droite. Ça fera partie d'une partie de notre entretien. Une autre question politique nationale, si vous permettez. Jean-Luc Mélenchon a choisi de partir seul, tôt, dans la campagne présidentielle. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous ? Est-ce que vous le soutiendrez encore ?
Je le soutiendrai, je le soutiens déjà. J'étais à Aubin dimanche dernier pour son meeting de lancement dans l'Aveyron, qui a été choisi parce que c'est un lieu symbolique aussi de la résistance ouvrière. Je pense que c'est très important, les symboles, à certains moments. Mais tout le monde part seul, en réalité.
Pas le moment de réfléchir à une grande coalition de gauche qui irait de LFI jusqu'au
PS.
Jusqu'au PS.
Il faut d'abord discuter sur le fond. Et Jean-Luc Mélenchon, quand il s'est présenté devant les auditeurs et auditrices à Aubin, a parlé de projets politiques et de fonds politiques. Moi, je veux parler de ça. Et il parle de ça. On a un projet à la France insoumise. On le discute. Et rassembler, c'est aussi rassembler des hommes et des femmes qui veulent du changement, un véritable changement. Pas toujours les mêmes politiques ressuscitées, les politiques libérales qu'on subit depuis 40 ans et qui nous conduisent non seulement à la catastrophe, mais en plus qui font enfler le vote pour le RN. Donc le sujet est celui-là. Quel projet ? Discutons du projet. Mais Jean-Luc Mélenchon est aussi légitime que n'importe quel autre dirigeant ou pseudo-dirigeant à gauche qui a envie aussi de partir. Il n'est pas le seul à avoir dit qu'il était dans la course. Non. Il y a Anne Hidalgo qui l'a dit. Il y a Yannick Jadot qui l'a dit. Il y a même récemment Fabien Roussel.
Donc, et M. Piolle aussi.
Et M. Piolle. Alors là, il y a une primaire pour les Verts. Ça, c'est pas décidé chez eux, mais de toute façon, il y en a un qui a vraiment envie d'y aller, c'est Yannick Jadot. Bon, la question ne se pose pas donc à Jean-Luc Mélenchon, mais aussi aux autres. Le vrai sujet, c'est quel projet ? Quel programme ? Bon. Sur quelle rupture aussi ? Parce qu'il faut rompre avec les politiques libérales. On l'a vu avec la Macronie, mais il faut vraiment être très clair sur le projet politique. Et là, pour le coup, les questions, elles se posent aussi aux autres candidats.
Alors, sur le programme, sur le projet, on va venir sur votre projet à vous, celui en tout cas que vous conduisez avec Occitanie Populaire pour les régionales de juin prochain. En 2015, vous formiez, hein, je le disais en préambule, une large alliance avec notamment Gérard Onesta d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi cela n'a pas marché aujourd'hui ? Est-ce le précaré qu'ont voulu conserver chaque personnalité ? Est-ce l'ego des personnes ou une stratégie pour la présidentielle qui est en filigrane de tout ça ?
Bah écoutez, nous notre position était assez claire par ailleurs. Alors je ne sais pas pour les autres ce qui j'ai quand même quelques réponses et quelques petites idées là-dessus, ce qui a fait que on n'a pas pu trouver une solution pour
pourquoi vous n'avez pas
pour
négocié
se rassembler complètement. Oui. Nous avons négocié. Oui. La France insoumise a été, je crois, une des premières à lancer un appel. Exactement en septembre dernier, un appel qui s'adressait très très largement aux organisations politiques à gauche pour leur proposer un rassemblement pour ces élections.
Y rassemblement à Carole Delga, par exemple.
Alors, oui. je vais y venir. Oui. On n'a pas souhaité, on ne s'est pas adressé au Parti Socialiste, qui d'ailleurs ne s'est pas adressé à nous non plus, hein, dans le cadre de son rassemblement, qu'il a opéré, et nous avons fait le nôtre. Parce que nous
avec
ne sommes
le Parti communiste, il faut le signaler.
Tout à fait, mais nous ne sommes pas les seuls, elle n'est pas la seule, et nous avons aussi opéré un rassemblement avec le NPA, et comme vous l'avez dit, la gauche démocratique sociale, qui vient du Parti Socialiste. Nous avons proposé à ceux qui, aujourd'hui, sont sur des politiques qui convergent avec les nôtres, c'est-à-dire qui pensent que la question sociale et la question écologique sont structurantes et elles doivent structurer notre projet et nos propositions. Or, nous nous sommes adressés donc au Parti communiste, nous sommes adressés à Europe Écologie Les Verts, nous nous sommes adressés à Génération, nous sommes adressés au NPA, à GDS, etc. Le Parti communiste a souhaité cette fois-ci partir avec Carole Delga.
Par loyauté ?
Moi, je n'ai pas bien compris si c'était d'accord. De la loyauté. Alors après, si avoir des places sur une liste, c'est de la loyauté, ça peut peut-être se réduire à
bon,
ça.
Ça pourrait s'entendre.
Mais ça pourrait aussi s'entendre. Mais le fait est que la loyauté, on la doit à nos électeurs, voilà, et à nos militants, et pas à des dirigeants politiques. Et quand on a été élu au sein de la région, en 2015, on a fait une alliance de second tour pour battre le Front National. Et nous avons spécifié à l'époque, nous, notre groupe, Nouveau Monde en Commun, Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts, que nous voulions garder notre indépendance de pensée, d'agir et de voter. Bien. Un certain nombre d'élus du Parti communiste d'Europe Écologie des Verts, c'est leur choix, libre à eux de le faire, ce choix, ont décidé finalement de voter comme Madame Delga. C'est leur choix. Bon, moi je suis une femme libre. Quand je suis d'accord avec Carole Delga, je vote avec elle, ce que j'ai fait. Quand je pense que je peux la convaincre, j'essaie de le faire aussi, ce que j'ai fait. Et quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Donc cette fois-ci, on ne s'est pas présenté, et on le regrette avec ceux et celles avec qui on avait fait avant, on leur a proposé et on a reçu une fin de non-recevoir, y compris d'Europe Écologie Les Verts, et je le regrette bien.
Europe Écologie Les Verts, Antoine Maurice, tête de liste de Europe Écologie Les Verts pour les régionales, sera à votre place jeudi prochain. Est-ce que vous lui lancez un appel ? Est-ce que vous pourriez lui dire quelque chose ?
Lui dire qu'on peut se retrouver de toute façon, voilà. Oui. Il y a deux tours à une élection, premièrement. Deuxièmement, qu'on regrette beaucoup son refus de la main tendue, parce qu'on lui a tendu la main quand même jusqu'à la mi-mars, et qu'on espérait un accord avec lui. Pour vous dire, on a été quand même très très loin dans les possibilités d'accord, puisqu'on lui a proposé même de prendre la tête de liste de notre attelage. C'est pas rien quand même. Puisque vous parliez d'ego, vous voyez, j'en ai pas moi d'ego. J'ai proposé qu'Antoine Maurice soit la tête de liste de notre rassemblement potentiel et de travailler au projet, au programme. Voilà. Bon. Même ça, ça n'a pas été suffisant. Je ne sais pas ce qu'il faut. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a des convergences. Et que ces convergences-là, on peut aujourd'hui considérer qu'elles peuvent nous amener à nous battre ensemble, effectivement, pour que nos propositions eh bien, soient des propositions qui puissent aujourd'hui être appliquées.
Marie Martin, je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
À la française, Albias ou Montbartier, vous écoutez CFM Montauban.
Pour fêter ses 40 ans, le CAUE 82 vous propose une journée de conférences-débats, mercredi 26 mai, à la Barthe. Des experts du climat, de l'architecture, de l'énergie, de la biodiversité et des déplacements doux partageront leur point de vue face au contexte du changement climatique. Jeanne-Gérard Discao, climatologue, Olivier Razemont, journaliste au Monde.fr, Stéphane Château, formateur éco-responsable, et Philippe Brett, architecte conseiller, répondront à vos questions. Renseignements auprès du CAUE 82.
Envie de prendre l'air et d'embarquer pour un voyage insolite en Tarn-et-Garonne ? Alors partez à la découverte du nouveau site de la Pente d'eau de Montèche. Un site haut en couleur, époustouflant, ludique et pédagogique, le long du canal de Garonne. Vivez une expérience unique et immersive dans une péniche musée en quête de secrets de l'incroyable machine de la pente d'eau. Elle n'attend plus que vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pentedeaudemontèche.fr.
1, 2, 3, partez. Découvrez la gamme Honda électrique et hybride chez votre concessionnaire Honda Montauban à partir de 16 990 euros avec la garantie Honda jusqu'à 10 ans. Honda parie sur l'avenir. Et vous ? Garantie moteur sous réserve de suivi de l'entretien Honda selon les préconisations constructeurs et indications ordinateur de bord. Jazz hybride à partir de 16 990 euros. Déduction faite de 1 500 euros de prime Honda, 2 000 euros d'aide à la reprise et de 3 000 euros de prime à la conversion gouvernementale. Offre valable jusqu'au 30 juin, soumise à condition. Votre concession Honda, chemin de Gimbelet à Montauban.
Du mercredi 19 au dimanche 23 mai, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement vous propose de participer à la fête de la nature aux côtés de notre paysagiste et de partenaires locaux. Au programme, visite de jardins publics et d'espaces naturels sensibles, introduction à une gestion plus responsable des espaces publics ou encore découverte des plantes sauvages des rues. Renseignements sur le site internet de la fête de la nature et du CAUE 82 sur les-caue-occitanie.fr, rubrique Tarn-et-Garonne.
Acteurs locaux, responsables associatifs, chefs d'entreprise ou simples citoyens, vous avez une info à faire passer ? Vous souhaitez communiquer ? Avec ces 7 studios implantés à Cahors, Quélus, Cordes, Lacaune, Montauban, Rodez et Villefranche, CFM vous offre une proximité inégalée. Alors n'hésitez pas, pour prendre la parole, rapprochez-vous de la rédaction de CFM la plus proche de chez vous en vous rendant sur cfmradio.fr. Ensemble, nous trouverons le moyen de vous faire entendre.
CFM, CFM Radio, votre radio en Tarn-et-Garonne.
Avec Myriam Martin, tête de liste Occitanie Populaire pour les régionales de juin prochain. Myriam Martin, un mot sur les scores, les intentions de vote en tout cas qui sont annoncées pour plusieurs régions, PACA, Hauts-de-France, chez nous ici en Occitanie, avec des scores très 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 élevés, au-delà de 40% selon certaines études. Qu'est-ce que vous inspire ces chiffres, ces intentions de vote pour des régions
Le Rassemblement national.
Oui.
Bah, moi, je suis très inquiète par ailleurs, parce que je fais partie de ceux et celles qui pensent que l'extrême droite est un danger qui est permanent et qui est croissant. Je pense que malheureusement, ces dernières années et les 4 années passées avec le gouvernement que nous avons, des politiques très dures, très libérales, et en plus avec une dérive autoritaire de l'État, ont contribué à nourrir, c'est le paradoxe, hein, on nous dit Macron en 2017, il faut voter contre lui pour battre le Front National, et puis en fait, ces politiques nourrissent toujours plus le vote FN, on est dans une espèce de cercle vicieux, ce cercle vicieux, il faut le rompre maintenant, il faut des vraies alternatives, donc y répondre aux questions sociales, parce que je pense que c'est ces questions-là qui sont aujourd'hui primordiales, hein, il faut répondre aux besoins, aux attentes d'une bonne partie de la population, et je pense qu'il faut mesurer le danger de ce parti, qui pour nous, on est on sera toujours des ennemis farouches de toute façon de l'extrême droite et qu'on connaît, qu'on côtoie malheureusement au conseil régional Occitanie avec presque une quarantaine d'élus. Il faut se rendre compte un petit peu de ce que ça signifie, y compris en termes de vote. Le Front National n'est pas une réponse, c'est une fausse et mauvaise réponse en fait au problème des gens. C'est un parti de toute façon qui ne mène pas de politique en faveur des plus défavorisés, des plus fragiles, contrairement à ce qu'il raconte. Nous, on le voit au conseil régional.
Comment vous expliquez, Myriam Martin, que des maires qui ont été élus en 2014-2015 ont été réélus largement dès le premier tour, Robert Ménard.
Bien sûr, mais c'est pas vrai que pour ces maires-là, parce que les élections se sont passées dans un contexte très particulier. Vous savez que c'est celui de la pandémie, déjà. Oui. Et vous avez d'autres maires,
Je veux dire par là qu'il faut... Il y a bien quelque chose qui explique ce vote.
Bah écoutez, quand vous allez à Béziers, moi j'y étais il n'y a pas très longtemps, on était reçus par une association citoyenne qui se bat contre l'emprise de l'extrême droite de M. Ménard et de la politique de Ménard. Moi j'ai rencontré des gens qui étaient très très mécontents, mais ce qu'ils font, ces gens, ils ne votent plus. Le vrai sujet aussi, ça. Le danger, c'est pas simplement le vote FN aussi, c'est le fait qu'on a une partie de la population qui est désespérée, qui ne croit plus en rien, qui ne vote pas. Et à Béziers, M. Ménard, certes, il est passé au premier tour, mais avec une extrême minorité de votes exprimés. Oui. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème, et c'est vrai pour d'autres, par ailleurs. Donc oui, on peut se poser la question, mais je crois qu'on a aussi une dérive sur une partie de la droite. sur tout ce qui est macroniste, avec une dérive qui... On continue à faire les mêmes erreurs, à aller sur le terrain de l'extrême droite en pensant qu'on va pouvoir un petit peu capter les voix du Rassemblement national pour soi-même, et on continue à aller dans la surenchère. On joue aux idiots utiles de l'extrême droite. On va sur son terrain de jeu favori et on répond à plus de sécurité aux sécuritaires. On répond à plus de répression à la répression. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, encore une fois, il est social. Comment on fait pour maintenir les emplois, pour développer les services publics, pour aller vers des acquis sociaux, des nouveaux acquis sociaux? Comment on fait pour développer une agriculture qui soit une agriculture qui permette aux paysans de vivre, qui permette aussi aux gens d'avoir des produits sains dans leurs assiettes? Toutes ces questions, comment on fait pour que les gens aient un meilleur pouvoir d'achat, qu'ils puissent payer des études à leurs enfants ou des vacances à leurs gosses? C'est ça la vraie question. On ne répond pas à ça. On a répondu pendant 40 ans avec des politiques libérales austéritaires. Et on a le résultat. Parce que c'est vrai que les discours les plus simplistes, parfois, sont les plus courts et les plus faciles à capter. On met un vote, un bulletin dans l'urne, protestataire, en se disant ben, « je vais faire bouger les choses ». Et on ne fait pas bouger les choses, en fait. On a là, entre les politiques libérales et l'extrême droite, une médaille à deux revers, en fait. Voilà. Que vous tournez dans un sens ou dans un autre, vous êtes dans l'impasse et dans l'échec. Donc il faut des politiques alternatives. Et tous ceux qui ont mené des politiques, peu ou prou, libérales, social-libérales, n'ont pas compris le problème des populations, ne répondent pas. Depuis les Gilets jaunes, de toute façon, personne n'a répondu au malaise qui est énorme et au déficit de démocratie. On n'écoute pas non plus nos concitoyens. On pense que les consulter chaque 5 ou 6 ans, ça suffit. Ben non, ça ne suffit pas. Nous, on est pour aller beaucoup plus loin, pour écouter, débattre et pour ne pas faire contre les gens, mais avec eux. On est par exemple pour un référendum d'initiative citoyenne à ces élections. On l'a inscrit dans notre programme et notre projet.
Justement, là, vous parlez d'initiative citoyenne. La loi 4D, un nouveau dispositif, si elle est votée, permettra d'élargir les dispositifs de participation citoyenne. Aujourd'hui, un électeur sur 5 d'une commune doit être signataire d'une pétition locale pour que sa demande puisse être examinée par le conseil municipal. Demain, ce ne sera plus qu'un électeur sur 10. Est-ce que cette loi, finalement, elle va dans le bon sens de ce que vous souhaitez? Plus de démocratie participative, d'implication des citoyens dans leurs exécutifs.
Mais il y a une forme d'hypocrisie. Je vais vous donner des exemples parce que, bon, outre que ça ne suffit pas, il faut accepter, par exemple, que parfois, je vais prendre un exemple en région, quand on mène un projet...
Justement, oui, la région.
Voilà, on va prendre la région. Parce qu'elle se targue, Carole Delga, d'avoir instauré de la participation, etc. Moi, je peux vous dire budget participatif, la montagne a couché la plupart du temps d'une souris ou de deux souris. On a, en fait, très peu de participation. On a une participation qui est souvent aussi numérique. Ça ne suffit pas. Pour faire débattre et décider. Il faut aussi se déplacer, il faut que les élus, on a une grande région, mais ça, ce n'est pas nous qui l'avons voulu, aillent au plus près du terrain pour rencontrer les gens et accepter. Et puis quand on tape à la porte de l'institution pour dire « Eh oh, là, votre politique, elle ne va pas bien, nous, on a des propositions alternatives, etc. » Il ne faut pas jeter les gens, il faut les écouter. Et je vais vous donner qu'un exemple. L'autoroute Toulouse-Castres, il y en a plein.
Vous êtes contre, vent debout.
Oui, bien sûr, mais on n'est pas seul à être vent debout. Moi, ça fait des années qu'on travaille avec des collectifs. Il y a des collectifs d'habitants, de citoyens et d'élus locaux qui se battent et qui proposent des alternatives.
Alors,
et on ne les écoute pas.
Aux Castrés et aux Toulousains qui font l'aller-retour et qui souhaitent se rendre plus vite sur la métropole toulousaine. Vous leur dites quoi? Si vous êtes élu président.
On leur dit ceci. Et on leur dit, en plus, avec, je vous dis, certains élus locaux et maires qui sont entre Castres et Toulouse. On leur dit qu'il y a une alternative, une étude qui a été faite, y compris financée par la région, qui n'a jamais été rendue publique. Moi, je l'ai découverte avec des maires qui s'opposent au projet. Bon, et cette étude, elle dit, avec 3 fois moins d'argent, on peut améliorer l'existant, avoir une double voie gratuite. Et on ne verse pas 60 millions à Vinci, et on ne fait pas payer les usagers de la route qui pourront aller de Toulouse à Castres et de Castres à Toulouse sans payer davantage que ce qu'ils paient aujourd'hui. Pourquoi on ne le fait pas?
Vous l'avez proposé?
Bien sûr. Mais la réponse est très simple. On ne nous écoute pas. Et on n'écoute pas surtout les collectifs citoyens qui se sont montés et qui demandent exactement la même chose. Pourquoi? Au nom de quoi? C'est de l'argent public. On va le verser à Vinci Autoroute, alors qu'on peut faire autre chose avec et permettre aux gens de se déplacer pour autant sans devoir payer un péage qui va monter jusqu'à 20 euros aller-retour. D'accord, je ne vous parle même pas des conséquences écologiques de cette autoroute.
Un mot sur la santé, Mireille Martin, hein, puisque le retourne, elle ne fait pas partie des compétences principales de la région, mais cela peut évoluer, notamment avec dans le cadre du projet de loi 4D, dont je viens de vous parler, 4D pour déconcentration, décentralisation, différenciation, décomplexification, qui prévoit des expérimentations. Vous l'avez lu, certainement. Mm. En tout cas, Carole Delga propose aussi d'expérimenter en matière de santé. Est-ce que c'est une proposition que vous pourriez suivre?
Non, pour le coup, on est absolument en désaccord. Le vrai sujet de la santé, d'abord, c'est un sujet qui est un sujet national. D'accord ? La régionalisation de la santé, c'est aller vers moins d'équité, moins d'égalité en fonction de la région où vous vous trouvez. Ça, c'est un vrai problème. On ne peut pas considérer qu'on n'a pas les mêmes accès à la santé à tel endroit ou tel autre, parce qu'on ne peut pas considérer qu'on n'a pas les mêmes accès à la santé à tel endroit ou tel autre, parce qu'on n'est pas dans la région qui expérimente, etc. Partager la misère, que ce soit à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale, ça revient au même. C'est faire croire qu'en fait, le problème de la santé, c'est un problème de bureaucratisation, de je ne sais trop quoi. Le problème de la santé, c'est un problème de moyens. Ce n'est pas une marchandise, la santé. Et il nous faut aujourd'hui, effectivement, développer ces politiques de santé à l'échelle nationale.
Mireille Martin, de vous couper. On revient tout de suite après sur la santé. On finira avec la santé, mais juste un point sur l'actualité.
CFM. CFM.
Il est 18h. La miroiterie Villefranchoise, c'est le spécialiste depuis 46 ans dans la fenêtre alu, PVC, bois, mixte, mais aussi dans la véranda et tout type de fermeture. N'hésitez pas à nous contacter ou venir nous voir pour tous vos projets.
CFM, vos infos.
Les infos avec Sophie Sarrance. Bonsoir Sophie.
Bonsoir à tous. On l'attendait depuis plus de 6 mois. Les terrasses des bars et restaurants ont accueilli leurs premiers clients aujourd'hui. Des clients ravis de retrouver leurs habitudes et ce malgré les contraintes sanitaires encore nombreuses. Des contraintes avec lesquelles les professionnels ont dû s'adapter, car l'essentiel était de rouvrir à l'image de David Zenouda, propriétaire de plusieurs restaurants à Paris.
Heureux, satisfait, soulagé, bref, on est content que les clients reviennent. Sur nos terrasses, il y a eu du monde. Alors ça a été un peu difficile parce qu'avec les 3-4 orages qu'on a subis, il a fallu rapatrier de temps en temps et regrouper les clients, même si c'était pas autorisé, mais à un moment donné, on peut pas faire autrement. Je pense que ce midi, certains ont profité d'aller au ciné, d'autres d'aller faire un peu de shopping, et c'est surtout ce soir, parce qu'ils annoncent un temps un peu plus clément, c'est ce soir que ça va être à mon avis, rempli.
Et outre les bars et restaurants, les commerces non essentiels ont aussi pu rouvrir. Déconfinement également pour le secteur culturel. Les cinémas peuvent de nouveau, depuis ce matin, accueillir des spectateurs. Ils étaient 35 000 selon les organisateurs. Les policiers se sont rassemblés cet après-midi devant l'Assemblée nationale à Paris pour une marche citoyenne. Entre autres revendications, ils réclament des peines plus lourdes pour les agresseurs des forces de l'ordre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est venu les soutenir, mais ça n'était pas le seul responsable politique. Et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, était également présente, aux côtés de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. Une enquête pour assassinat ouverte dans le Gard. Deux corps ont été retrouvés hier dans une voiture, celui d'un homme de 73 ans sur le siège passager et celui d'une femme de 69 ans dans le coffre. Le procureur affirme que les victimes ont subi des actes d'une toute particulière violence, sans plus de précision. Les autopsies devaient avoir lieu dans la journée. En foot, 5 jours pour sauver la saison. Le PSG éliminé en Ligue des Champions joue son va-tout ces prochains jours. Dimanche, le club parisien, devancé d'un point par le LOSC, tentera de remporter le championnat. Mais avant cela, ce soir, les hommes de Pochettino affrontent l'AS Monaco en finale de la Coupe de France. Coup d'envoi à 21h15. Voilà pour l'actualité. Bonne soirée à tous.
CFM. CFM Radio.
Avec Mireille Martin, tête de liste Occitanie Populaire. Mireille Martin, on parlait de la santé, de la désertification médicale. Comment comptez-vous vous y prendre pour garantir la présence de services de proximité dans les départements qui sont isolés, dans les territoires ruraux? Est-ce que vous avez une stratégie?
Déjà, il y en a une. Hein, et c'est pour revenir à ce qu'on disait juste auparavant. La stratégie, c'est déjà de défendre partout. On doit le faire, les hôpitaux de proximité. Et comme il y a des projets quand même de menaces sur les hôpitaux, moi je me balade, je ne vois pas trop...
Notamment ici, chez nous, à Moissac par exemple.
Moissac, il y en avait dans les Hautes-Pyrénées. Et moi je connais bien, je vous disais que j'étais ariégeoise, le choix d'avoir un hôpital central unique sur l'Ariège, c'est une catastrophe. On a détruit tous les services de proximité.
Le Chiva, oui.
Oui, bien sûr. Et il ne reste plus que le Chiva qui est sous-dimensionné, qui ne peut pas répondre à toutes les demandes de santé. Donc c'est un vrai sujet.
Qui a été en lutte pendant très très longtemps.
Mais bien sûr, c'est un vrai sujet. Et quand vous allez voir les soignants, ils ne vous disent pas que la régionalisation va régler les problèmes. Ils vous disent qu'il faut aujourd'hui une vraie politique de développement partout sur les territoires de services de santé de proximité. C'est ça le sujet, la première chose. Et là, effectivement, la région, elle n'a pas de compétences, mais elle peut très bien agir auprès de l'ARS et de l'État pour dire arrêtez de fermer des lits, arrêtez de supprimer des postes. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, nous, c'est les centres de santé. Nous, on a proposé, mais on l'avait proposé dès le début de la mandature.
Centre de santé, c'est ce que propose aussi Carole Delga, avec la création de centres.
Écoutez, il y a eu un débat
avec le recrutement de médecins.
Bon, je suis très surprise quand on dit ça à 6 mois des élections, alors que nous avons proposé de doubler le nombre de centres de santé en 2015, il y en avait une dizaine dans les 2 années de la mandature, jusqu'en 2017, que tout ça n'a pas été possible, qu'on a plutôt privilégié... Alors, pour que tous vos auditeurs comprennent, un centre de santé, c'est effectivement avec des médecins salariés. Et c'est quelque chose qui se développe partout, il y a même une fédération pour ça qui peut aider, et qui est très intéressante parce qu'on peut avoir le centre de santé, y compris dans les endroits les plus reculés, pour avoir une offre de santé au plus près des habitants.
C'est
nous, on
priorité,
défend ça.
La santé,
c'est notre priorité.
C'est votre priorité sur votre projet, sur votre
programme. C'est une des priorités, et en tout cas avec les compétences qu'on a. C'est-à-dire qu'on peut aider effectivement à la mise en place et au financement de centres de santé, investissement et fonctionnement. Parce qu'après, les médecins, ce n'est pas Carole Delga qui va les recruter. C'est avec les communautés de communes et les communes qui sont support. On peut voir effectivement, et avec l'ARS, les médecins qu'il nous faut. Mais il faut développer ces centres de santé. Ça répond effectivement aux besoins de santé. Hein, c'est très important d'avoir...
Pardon, de la citer, mais oui. Elle veut aller plus loin, c'est-à-dire se substituer finalement à l'ARS pour devenir chef de file
de
santé.
Mais au nom de quoi ?
Au nom de l'expérimentation.
Eh bien voilà, moi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est extrêmement dangereux, encore une fois, c'est une régionalisation avec des spécificités en Occitanie, on aura des choses différentes en PACA ou en Grande-Aquitaine, et puis selon la couleur politique, vous aurez plus ou moins de la santé, ou plus ou moins des médecins recrutés, ou plus ou moins les centres de santé. Le service public, il est national, il doit rester national pour répondre à l'égalité des territoires. Ça, c'est primordial, et c'est les personnels de santé qui vous le disent. Les infirmiers, les médecins, ceux qui travaillent en hôpitaux, ils disent qu'il faut développer partout les services hospitaliers de santé, et c'est une question de volonté politique et de choix politique. C'est pas une question de région Occitanie ou je ne sais, ou de la région Aquitaine.
Voilà, on a compris en tout cas que vous êtes contre la territorialisation, mais plus pour une harmonisation, une uniformisation en tout cas au niveau national.
Il y a un développement surtout du service public hospitalier.
Il y a un développement du service public. L'emploi, c'était aussi une des préoccupation première en France et ici en Occitanie. La crise sanitaire laissera malheureusement beaucoup de personnes sur le bord de la route. Que peut faire la région ? Que ferez-vous, vous, si vous êtes président de la région Occitanie Est-ce que vous soutenez, par exemple, la filière aéronautique, vous ?
On soutient l'emploi. Alors, je vais expliquer comment. La filière aéronautique est une filière qui a été affectée, effectivement, par la crise. Bien. En particulier, les sous-traitants, qui est pourvoyeuse d'emploi. Mais il faut, du coup, parfois, vous savez, il y a des moments où on peut, comme ça, s'asseoir, se poser et réfléchir à ce qu'on peut faire pour l'avenir. L'aéronautique et la crise de l'aéronautique a posé plusieurs questions. La mono-industrie, ça, c'est un premier problème. C'est pas nouveau pour nous, c'est un problème qui existait avant. On disait, s'il y a une crise
d'un jour... Vous êtes de l'année, vous l'avez connue, cette mono-industrie qui a mis à terre un territoire entier.
Tout à fait, mais pas que, parce que c'est aussi les délocalisations qui ont particulièrement mis à terre aussi le textile à l'année, comme le démantèlement de l'industrie en France, parce que le choix, il est celui-là. On maintient les emplois et on réfléchit aussi à quelle diversification et reconversion industriel. Il faut qu'on travaille sur ces sujets. On est même prêts, nous, à avoir une vice-présidence qui travaille sur cette question-là, avec la région, avec les entreprises et avec les salariés. Parce qu'on travaille beaucoup aussi avec les salariés, techniciens, ingénieurs, qui nous disent des choses, sur qu'on peut faire, comment on peut améliorer, par exemple, comment on peut diversifier, etc. Il faut travailler à cette question-là, mais on maintient l'emploi. Je dis ça pourquoi ? Parce que vous avez des millions d'euros qui partent aux entreprises aujourd'hui sans contrepartie. Et le vrai sujet, c'est quand on donne de l'argent, c'est d'exiger au moins que les emplois soient maintenus. Les emplois, les savoir-faire. Parce qu'on sait, c'est ce que vous venez de dire, que si on laisse faire, on a des drames, des bassins entiers qui disparaissent.
Vous,
de Casville, par exemple, aujourd'hui, ou l'aéronautique.
Donc, président de région, vous supprimerez les aides aux grands groupes qui sont sur le territoire ?
On va réfléchir à qui on donne de l'argent. Il y a des groupes qui n'en ont pas besoin.
Avec des contreparties ?
D'abord, contrepartie. Premier élément, on garde l'emploi. On est en difficulté, mais si on vous donne de l'aide, c'est pour pouvoir garder l'activité. Et l'activité, pour la maintenir, il faut des salariés. Donc, on garde tous les emplois. On maintient donc ainsi les salaires. Et après, on voit comment on fait. Est-ce qu'il faut aider pour, par exemple, reconvertir telle activité ? Est-ce qu'on peut, par exemple, aider plus une activité qui, elle, peut être pourvoyeuse d'emploi ? Est-ce qu'on peut mettre en formation une partie des salariés ? Mais en tout cas, ce n'est pas aux salariés de payer la crise. Et ça, c'est possible, parce que le levier économique, la région l'a, parce que l'argent, elle en a donné déjà, et elle continuera à le faire, mais on n'en donne pas, y compris à des groupes qui profitent de l'aubaine pour restructurer, qui ont des logiques financières derrière. ou qui, par exemple, effectivement, ne garantissent pas le maintien de l'emploi. C'est le cas aujourd'hui, malheureusement, dans une partie de l'aéronautique dans la région. Ce n'est pas que Toulouse, par ailleurs, qui est affectée par ce type de problème. Je pense à Figeac, dans le Lot aussi.
Vous parlez de diversifier l'offre d'emploi, en tout cas sur la région. Ça passe par peut-être la transition écologique comme alpha et oméga de votre action.
Nous, on appelle ça la bifurcation écologique. Alors, il faut qu'on réfléchisse effectivement à des reconversions. On a des savoir-faire. On peut peut-être l'utiliser pour l'éolien, pour travailler sur le ferroviaire. On peut réfléchir à travailler aussi sur... Vous savez que la rénovation thermique est aussi pourvoyeuse d'emploi. Et il nous faut aujourd'hui être un modèle de ce point de vue-là pour éviter les passoires thermiques qui existent dans les bâtiments privés comme publics. On a des savoir-faire, bon sens, utilisons-les pour pouvoir effectivement reconvertir vers cette bifurcation écologique qui est nécessaire. On ne peut pas réfléchir aujourd'hui à l'industrie, au métier de demain, sans poser la question climatique et la question environnementale. C'est obligatoire, c'est fondamental, et pour l'emploi, mais aussi pour la planète. Et ça, aujourd'hui, c'est un chemin qu'on doit prendre. On ne peut pas le faire si on ne prend pas la décision que c'est la puissance publique, que c'est la collectivité qui planifie ce travail-là avec les entreprises, encore une fois, les salariés, l'État, mais bien sûr, tous les acteurs.
Un big bang, c'est un big bang que vous
En quelque sorte, oui. En tout cas, il faut, quand on parle de bifurcation, nous, parce que dans l'idée, c'est un changement de braquet. Il faut changer de logique. On n'est pas toujours au service des entreprises, sans réfléchir sur ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel marché. Nous, on réfléchit dans l'autre sens, en disant qu'est-ce qui est utile aujourd'hui pour la population, pour les activités, pour maintenir l'emploi, et qu'est-ce qui est bon aussi pour la planète. Voilà, et donc c'est cette logique-là, nous, qui nous anime d'abord avant de penser effectivement à la compétitivité, l'exportation, etc. Pour pouvoir d'abord avoir des activités, il faut les maintenir.
Mireille Martin, autre grosse compétence de la région, c'est les transports. On a parlé de votre refus, de votre veto sur l'autoroute Toulouse-Castres. Toulouse et Montpellier sont très souvent pointés, ce sont les deux grandes métropoles de la région, pointés du doigt comme étant des métropoles les plus embouteillées de France. Comment faire ? Est-ce que sur ce plan-là, vous avez des idées ? Moins d'auto, il faut bien que
moins
les gens...
Bien sûr. Alors, mais on n'est pas de ceux qui ont une vision de l'écologie punitive. C'est-à-dire qu'on ne va pas punir les gens parce qu'ils n'ont pas de transport autre que la voiture pour se déplacer, pour aller travailler. Donc, il faut des transports en commun. La compétence train, terre, est une compétence régionale. Donc, il faut développer le train du quotidien. Oui. Et je pense que c'est une priorité. Donc, il faut rénover des lignes, il faut en ouvrir pour celles qui sont fermées, il faut bien sûr maintenir celles qui sont menacées, il faut développer, nous on pense par exemple à développer un RER autour, et de ce point de vue-là, on pense que le collectif qui existe sur Toulouse, qui s'appelle Rallumons l'Étoile, a raison. Il faut un RER autour de Toulouse pour pouvoir désembouteiller la ville, c'est insupportable, vous avez des bouchons partout, et il faut développer ces trains qui vont aussi vers des villes moyennes pour que les usagers puissent utiliser les transports en commun.
C'est-à-dire des trains, c'est-à-dire un RER par exemple
autour de Toulouse pour désengorger Toulouse.
Mais qui irait jusqu'à, par exemple, Montauban ?
Il peut aller jusqu'à Montauban, mais vous avez d'autres lignes qu'il faut absolument développer. Celle sur Toulouse-Colomiers, Colomiers-Auch, celle sur Toulouse-Castres, vous voyez comme quoi c'est aussi une alternative à l'autoroute. Donc ces trains ont besoin, les cheminots, quand vous les rencontrez, ils ont besoin d'avoir des trains qui soient mieux cadencés, des voies qui soient mieux entretenues. Et donc, nous, on mettra le paquet là-dessus. Parce qu'il faut développer ces transports en commun. C'est bon pour...
Au détriment de la LGV ?
Ben, c'est pas... Pour moi, si vous voulez, dans les projets, c'est plutôt la LGV au détriment des autres.
D'accord.
Parce que c'est le vrai sujet qu'il faut poser. 4 milliards que l'État met sur la table, mais dans une promesse peut-être de Gascon, par ailleurs. Mais il y a 6 milliards de plus à trouver. Parce que la LGV, aujourd'hui... Entre Toulouse et Bordeaux, c'est 9 à 10 milliards. Bon, on nous dit que c'est pour désenclaver le territoire. Ah bon ? Nous, on demande par exemple qu'il y ait une ligne qui soit réouverte entre Auch et Agen, par exemple. Y compris, ça pourrait, si on voulait être cohérent, permettre aux gens qui vont de Auch à Agen de prendre après le train. Ce n'est pas prévu. Désenclaver un territoire, c'est permettre aux territoires ruraux d'avoir des transports en commun. Ce n'est pas ça qui est priorisé. La LGV, elle va de Toulouse à Bordeaux. Elle ne va pas désenclaver le reste de la région. Donc nous, on ne veut surtout pas que ce soit au détriment du train du quotidien.
Donc c'est-à-dire que ce serait secondaire, la LGV ?
Ben, pour le moment... Ce qui est prioritaire, c'est le train du quotidien. Et là, la question de la ligne, de l'aménagement entre Toulouse et Bordeaux peut se poser, mais en termes aussi d'amélioration de l'existant. Pourquoi on ne pose pas ces questions-là ? Mais comme on est bloqué sur la LGV depuis 20 ans, on n'a rien fait, de fait, entre Toulouse et Bordeaux, et on n'a rien fait non plus entre Toulouse et Paris, hein, la voie traditionnelle qui a été utilisée, parce que la SNCF et l'État aussi se sont désengagés du train. Et c'est une aberration quand on parle effectivement de faire une vraie révolution écologique parce que c'est nécessaire pour la planète, c'est une aberration. Donc la priorité, transport donc des trains du quotidien, c'est une demande aussi des usagers. Et après on verra, parce que moi j'aimerais bien savoir que les collectivités disent comment elles vont faire pour financer les 6 milliards manquants pour la LGV. Ça a un coût très très important et ça a un coût écologique où on n'a pas le temps de le développer, aussi qu'il faut aborder, parce que c'est une question aussi qui est importante.
Sur l'agriculture, Mireille Martin, est-ce que vous avez là aussi un projet? On sait que les régions ont une vision plus large sur les problématiques agricoles depuis la réforme territoriale. Quel regard portez-vous sur l'agriculture de notre région? Quels sont ses atouts, ses points faibles? Ce que vous voulez, souhaitez développer?
Elle a un atout, l'agriculture de la région. C'est la première agriculture bio de France. C'est un atout. Il y a énormément de production, parce qu'il y a des départements très variés qui le permettent. Bon, aujourd'hui, il faut développer l'agriculture biologique, voilà. Et l'agriculture paysanne, j'insiste bien. Une agriculture, on va dire, vertueuse. Bon, c'est important pour les terres, c'est important évidemment pour ce qu'on met dans notre assiette, c'est important pour les circuits courts qu'on pourrait développer. Et aujourd'hui, on est dans l'entre-deux. Et on a un petit coup d'arrêt. En réalité, on ne va pas assez loin et il faut aider les agriculteurs, je pense aux maraîchers en particulier, qui ont des difficultés à trouver des terres.
Est-ce que la région Occitanie, au jour d'aujourd'hui, utilise, enfin, je veux dire, pour ses lycées, par exemple, pour les cantines des lycées, utilise systématiquement...
C'était une de nos demandes, par ailleurs. Il y a 40% de produits qui sont utilisés de produits. Mais nous, on veut monter 40%, si vous voulez, sur toute la mandature. C'est pas énorme, ça fait même pas la moitié. Ouais. Or, aujourd'hui, puisqu'on a la première agriculture bio de France, autant utiliser ces produits pour alimenter. Mais pour alimenter les cantines et pour aller au-delà des 40% de produits bio locaux, il faut aider les agriculteurs à s'installer en bio et ou à se reconvertir en bio. Et les aides sont d'une part insuffisantes et encore une fois, on aide trop l'agriculture productiviste.
Vous les augmenterez ces aides
Oui, on est pour même, je vais vous dire, on a une proposition, c'est de supprimer, parce que vous savez que les problèmes des paysans, c'est souvent leur dette, c'est de supprimer la dette des paysans, de la prendre en charge par la région.
C'est-à-dire, vous la rachèteriez?
Oui. Et en échange, par contre, on aurait... Une exigence très forte sur la durée de reconversion en bio et de production en bio.
C'est une condition sine qua non.
C'est une condition sine qua non. Mais pour les aider aussi, on a un établissement foncier public régional qui n'est pas très utile pour le moment, mais nous, on veut le rendre utile. On veut acquérir des terres pour permettre aux paysans de s'installer. Parce que c'est un des problèmes majeurs qu'on rencontre quand on rencontre des paysans.
Alors, problème majeur pour les agriculteurs, c'est l'eau aussi. Vous avez une politique.
Oui, qu'on a proposé. Parce que tout ce que je vous dis là, on le propose depuis 6 ans. Il y a une partie, quand même, une grosse partie a été refusé par la région Occitanie. Je tiens à le préciser. Toutes les assemblées plénières, nous avons fait des amendements, notamment pour le budget, pour pouvoir mener cette politique-là. Ces politiques-là, elles ont été refusées. Mais nous, aujourd'hui, on dit que c'est des politiques qui sont cohérentes. Et l'eau, c'est pareil. C'est pas une compétence directe, mais on propose tout simplement d'avoir une ingénierie au sein de la région Occitanie qui aide les communes, les petites collectivités, les autres collectivités à revenir en régie publique. Parce qu'on veut effectivement que l'eau, qui est un bien commun, soit régie de manière publique et qu'elle puisse aussi être administrée de manière intelligente. On a besoin de réfléchir à la ressource en eau et la préserver aussi en amont, parce qu'aujourd'hui, elle est effectivement très fragilisée.
La dynamique est-elle chez vous, Madame Martin?
Je ne sais pas.
Vous savez pas?
Non, franchement. Je pense que les bonnes idées, les solutions alternatives, un vrai projet alternatif de société... ce projet, il est chez nous, voilà. Après, je pense que dans la situation actuelle, il est très très compliqué de pouvoir mener campagne. Par ailleurs, parce que concrètement, il faut être honnête, la plupart de nos concitoyens sont quand même un petit peu la tête dans le sou avec ce Covid qui écrase tout, bien sûr. Et puis parce que aussi, j'ai l'impression que pour en tout cas la classe politique dirigeante, il faut surtout faire en sorte que ces élections régionales passent complètement inaperçues. Donc on verra bien. Si elle est de notre côté le jour du premier tour des élections, en tout cas on va faire tout pour et on va continuer à arpenter toute la région pour se faire entendre.
Une toute dernière question, si vous permettez, que ferez-vous en premier si vous êtes élue présidente de la région Occitanie?
Alors, si je suis élue présidente de la région Occitanie, les premières mesures que je prendrai, ce sont des mesures de gratuité en faveur des jeunes, notamment cantine gratuite pour les jeunes qui sont allocateurs de rentrée. Transport gratuit pour les 16-25 ans dans les terres et les transports bus de la région. Et gratuité aussi pour les précaires et les chômeurs, ce qui pourra aider ceux qui aujourd'hui sont les plus fragiles à pouvoir faire face aux difficultés financières qui sont vraiment les leurs aujourd'hui.
Merci beaucoup Mireille Martin d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio. Je rappelle que vous conduisez donc la liste Occitanie Populaire, soutenue par la France Insoumise, nouveau parti anticapitaliste et la gauche démocratique et sociale. Voilà. Merci à vous. Au revoir.
Merci Canarium pour cette émission spéciale régionale, première d'une série, d'une longue série consacrée au régional.
Notre prochain invité sera Antoine Maurice, donc tête de liste Occitanie en commun, Europe Écologie des Verts.
À bientôt.
Jeudi.
À jeudi prochain alors, c'est oui. Ça marche, à jeudi. Bon. Vous écoutez CFM et on reprend dans quelques instants le cours de nos émissions habituelles.